Ce matin, le thème de ce matin, bon, comme Suzanne vous l'a dit tout à l'heure, on va reprendre un petit peu aussi à partir de l'histoire de Joseph, mais on va la pousser un petit peu plus loin, puis parce que Joseph a ce qu'il a démontré dans sa persévérance, c'est l'expression de sa foi. Puis souvent, notre foi est attaquée, hein? C'est difficile de toujours être persévérant, c'est difficile de toujours croire quand tout va mal. Puis ce matin, ce sera le thème que je vais aborder, les maladies de foi. Évidemment, pas de E, et c'est les maladies de la foi, en fait. Mais je me trouvais bien drôle avec mon jeu de mots. Ça fait que je l'ai pris comme titre. Donc aujourd'hui, les enfants travaillent sur l'histoire de Joseph afin de voir comment il a été persévérant dans sa foi en Dieu. Même si en fait tous les maux du monde s'abattaient sur lui. Ses frères avaient voulu l'éliminer physiquement, carrément. Il s'est retrouvé injustement en prison. Tout allait mal, la lumière au bout du tunnel n'était pas là. Tout ce qu'il voyait, c'était quelque chose de plus profond encore. Jusqu'au jour où, à un moment donné, il est appelé par Pharaon. Et puis, tout d'un coup, parce qu'à cause d'un don qu'il avait reçu de Dieu, la capacité d'interpréter des rêves, il s'est retrouvé à la tête de l'Égypte, juste en dessous de Pharaon. Ce serait le fun d'avoir des promotions comme ça au travail, hein? Passer de concierge à vice-président, directeur général. Et c'est un peu ce qui est arrivé à Joseph. Et puis, là, je vous envoie au chapitre 41 de Genèse, des versets 37 à 42. Genèse 41, 37 à 42. Il venait tout juste d'interpréter le rêve de Pharaon et, le texte dit, ses paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'Esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il n'a pas abandonné, hein? Joseph, il a persévéré, il a continué à croire. Et puis un jour, contre toute attente, au moment où c'était impossible de le prévoir, Dieu lui a donné cette position-là en Égypte. Aussi pour accomplir quelque chose, hein? Ce n'était pas juste pour le glorifier, mais c'était pour qu'il agisse justement, de façon juste, avec les Égyptiens, éventuellement aussi avec ses frères, qui accueillera en Égypte lors de la famine. Il y avait c'est Winston Churchill qui disait au cours de la Deuxième Guerre mondiale, quand on lui demandait comment ça se passait après les massacres ou les rafles allemandes sur Londres, il disait, ça va bien, on avance, de défaite en défaite jusqu'à la victoire finale. Et puis, il y a quelque chose un peu comme ça dans notre vie de chrétien, parce qu'on va toujours avoir des embûches, on va toujours avoir des choses qui nous déplaisent, il va toujours avoir des désagréments, mais on n'est pas là pour ça, on est là pour la victoire finale qui est notre libération, qui est notre salut. Donc, l'histoire de Joseph nous amène à affiner, à peaufiner un peu notre foi, puis à réfléchir à partir de ça. Joseph a cru en la promesse du Seigneur et il a cru surtout que le Seigneur lui voulait du bien. Et pourtant, à un moment donné de sa vie, c'était difficile à croire ça, très difficile à croire. Je vous envoie maintenant, parce que là on a vu les circonstances un peu de la foi de Joseph, mais la foi, quand on parle de la foi, qu'est-ce que c'est exactement? Il n'y a jamais de définition très précise, mais parce que c'est quelque chose qui se vit, ce n'est pas quelque chose qui se définit. Je vous envoie en Hébreux 11. On va lire le verset 1 et 2, et puis on va ensuite sauter au verset 13, que j'avais déjà abordé ici la dernière fois. Hébreux 11, versets 1 et 2. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Ça inclut Joseph. Et on va au verset 13 qui dit « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, en parlant des anciens, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin. » Reconnaissant qu'ils étaient étrangers voyageurs sur terre. Parce que finalement, la foi, ce qui est promis et ce en quoi on croit par notre foi, ce n'est pas quelque chose qui va être dans toute sa splendeur ici, sur terre. Oui, on va le voir, oui, on va y goûter, comme les anciens l'ont fait. Ils ont obtenu la faveur de Dieu, ils ont pu le sentir, ça a été sensible. Mais c'est quelque chose qui va bien au-delà de tout ça. Et c'est notre salut, en fait. Notre salut, évidemment, parce qu'on vit dans le monde, va se refléter dans notre façon de vivre et dans ce qui nous entoure, dans notre façon d'être, d'abord, et dans notre façon d'être avec les autres, et dans ce qui va nous entourer dans le monde. Ce qui fait en sorte que le salut aussi, ça nous envoie un message, le salut n'est pas quelque chose d'individuel, le salut est quelque chose de collectif, c'est quelque chose qu'on jouit en groupe. En Église, en société. Et ça se manifeste comme ça. Même si Jean-Paul Sartre disait « L'enfer, c'est les autres », non, c'est aussi, oui, des fois, ils sont des petites roches dans sandales qui agacent, mais c'est aussi par eux, par les autres, qu'on vit déjà depuis maintenant ce royaume de Dieu-là dans le monde. Je reviens à mon thème médical, les maladies de foi. Là, on a une définition de la foi. Et puis, qu'est-ce qui peut empêcher à cette foi-là, telle qu'on vient de la décrire, de s'exprimer pleinement? D'abord, j'en identifie trois ici. Elles peuvent toutes être décortiquées davantage. Il pourrait en avoir d'autres. Bon. J'en mentionne trois. Les croyances. On va expliquer tout de suite pourquoi je dis ça, les croyances. Deux, l'idolâtrie. Et trois, le ritualisme. Les croyances. On dit croire. On dit on croit en Dieu, mais on croit de quelle façon? Parce qu'il y a plusieurs façons de croire. Moi, je crois que... Si je m'habille en bleu pour aller voir l'équipe française, ils vont gagner. Ça fait partie des croyances. Je l'avais essayé en jaune avec la Colombie, puis ça n'a pas marché. Bon. Ah bon? Faut que je fasse attention, donc. Ça, ça fait partie des croyances. Les croyances, à l'origine, c'est basé sur un passé, le mythe d'un passé fondateur. On croit que les choses sont telles qu'elles sont aujourd'hui parce qu'il s'est passé telle affaire avant. Quand ça, on ne le sait pas. Exactement comment, on ne le sait pas. Qui, on ne les connaît pas, mais ça s'est passé comme ça. Et on a un petit peu des résidus de ça dans les textes bibliques, parce qu'aussi, la foi chrétienne, la foi juive et chrétienne, vient d'abord de ces croyances-là. Il y a eu toute une évolution. Et puis, au départ, on croyait en la création de cette façon-là. Hein? C'est-à-dire que les ancêtres, les entités supérieures avaient créé le monde. Tout est bénédiction, tout va bien, merci mon Dieu, parce que tout ce qu'il y a à faire dans un régime comme ça, c'est dire merci aux divinités, dire merci à Dieu. Tout est beau dans le meilleur des mondes. Même si on n'est pas d'accord avec ce qui se passe, c'est la perfection. C'est des êtres supérieurs qui l'ont fait quand même, donc merci. Et puis tout d'un coup, il arrive un autre problème, et puis là, on a un autre texte de la création, où ce qui apparaissait comme étant une bénédiction, le fait de se multiplier, le fait de travailler la terre, apparaît comme une malédiction dans le deuxième texte. Et puis là, tout d'un coup, les choses telles qu'elles sont, on n'en est plus satisfait. Et c'est là que la foi naît. C'est croire en quelque chose qu'on ne voit pas encore. C'est espérer quelque chose qui va venir, quelque chose de mieux. Parce que ce que Dieu veut pour nous, ce n'est pas l'état des choses actuelles dans le monde. C'est mieux que ça. Et on y croit. On est habitué, hein? On est dans une culture de nez pour un petit pain, il faut être content avec ce qu'on a, il ne faut pas trop brasser les affaires, hein? Fais pas de vagues. Bien, ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. Il faut briser les choses telles qu'elles sont. La difficulté avec les croyances, c'est que ça nous amène à vouloir conserver un état de choses qui en fait n'est pas la volonté de Dieu dans sa plénitude. Tout n'est pas nécessairement mauvais, mais ce n'est pas la volonté de Dieu dans sa plénitude. Ça nous amène dans un certain conservatisme à conserver. Et puis là, il ne faut pas trop changer, parce que si on change la tradition, si on change notre façon de faire, et pourquoi on ferait les affaires autrement si on l'a toujours fait comme ça, puis on est bien là-dedans. Alors que la foi nous amène à briser ça, à briser des façons de faire d'avant, parce qu'il faut changer ce monde-là, continuellement. Et quand je dis ici conservatisme, c'est l'esprit de conservation. Évidemment, ça peut se transférer dans un certain conservatisme sur le plan politique, sur le plan économique, à d'autres, mais ce n'est pas à ça que je me réfère d'abord et avant tout. Alors, je précise, comme certains connaissent mes positions politiques, vont dire « c'est bien sûr qu'ils parlent comme ça du conservatisme ». Mais bon, c'est une autre histoire. La foi exige de mourir aux maux de la société pour renaître dans le royaume de Dieu. Il faut en finir avec l'état de choses qui nous opprime, qui nous soumet, pour pouvoir ressusciter, pour pouvoir transformer le monde et là, y ressusciter. Il y a une chose fascinante, quand j'ai fait ma maîtrise sur les mouvements pré-révolutionnaires russes du 19e siècle, on apprend quand même des choses intéressantes là-dedans. Eux, ils utilisaient le mot « vostanier » pour parler de résurrection, parce que il n'y avait pas de mot pour parler de révolution, parce qu'il n'y avait pas de mot « révolution ». D'ailleurs, ce qu'on a utilisé comme mot pour parler de révolution après, c'était « révoluti », mais ça n'existait pas avant. Les mouvements pré-révolutionnaires n'avaient pas ce mot-là, et donc ils utilisaient le mot « vostanier » pour parler de la révolution. Et « vostanier » est dans la Bible pour parler de la résurrection en russe. Transformer les choses de notre société, c'est une résurrection. Une résurrection, pas juste pour notre personne, c'est une résurrection de l'ensemble de la création. C'est vers ça qu'on va. C'est ça qu'on est en train de construire, avec la foi. Et donc, ce qui nous empêche d'aller vers ça, ce certain conservatisme-là, les affaires telles qu'elles sont, c'est des empêchements à l'expansion de cette foi-là. Et même si je prêche ça, je tombe souvent dans ce panneau-là du conservatisme. Avec le temps, je dois vous le confesser, je suis devenu beaucoup plus conservateur dans mes façons de faire, dans ma façon d'être. Dernièrement, j'ai eu tout un choc dans mes prières où je me suis mis à me rappeler le temps de ma conversion, le temps où j'ai déclaré que le Seigneur était mon sauveur personnel, il y a déjà longtemps. Et puis à ce moment-là, il y avait une fougue, une volonté de transformer les réalités telles qu'on les vit, que j'ai complètement perdues. Et le pire dans tout ça, c'est que j'ai presque pas envie que ça revienne, cette fougue-là. On est tellement bien quand ça bouge pas trop. On est tellement bien dans un bateau quand ça n'a pas trop de vagues. Ça, c'est ce qui se passe dans ma vie de prière ces temps-ci. Le deuxième mal ou la deuxième maladie, l'idolâtrie. Là, je vous envoie, puis on va voir comme en deux temps. La dévotion aux divinités, aux statuettes, tout ça, là. De consulter des sorciers pour faire venir l'être bien-aimé. Bon, ceux qui viennent d'Afrique, d'Haïti, vous savez très bien de quoi je parle, ou d'Amérique latine. C'est tout ça, l'idolâtrie. Croire qu'il y a autre chose qui peut intervenir. Et puis, je vous envoie à Josué 24, 2. Josué dit à tout le peuple, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Terah, père d'Abraham et père de Nakhor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. » J'ai toujours cherché ce passage-là dans la Genèse, mais finalement, il est dans Josué. Ce qui nous amène aussi à voir que quand Abraham a quitté sa famille pour aller vers la terre promise, c'était aussi l'idolâtrie de son père qui quittait. Ce n'était pas juste sa famille qui quittait tout bonnement, il y avait autre chose de plus profond. Il laissait une façon d'adorer Dieu pour en adopter une autre. Et pour croire profondément et à tout vent dans ce Dieu-là, qui sera considéré comme le Dieu d'Israël, Yahvé. Il a laissé sa vieille façon de croire. Les dévotions aux divinités. Toutes les consultations de cartes, toutes ces choses-là, qui nous détournent, en fait, de Dieu. Des fois, on va dire, « Ah, oh, c'est pas bien, bien grave, c'est juste autour, c'est pas plus que ça. C'est juste une petite image. Hein? » Même certains vont dire, dans certaines églises chrétiennes, que ben, c'est pas bien, bien grave, une image, ça nous aide à voir Jésus, ça nous aide à voir Dieu à travers cette image-là. Moi, je ne suis pas sûr. Personnellement, je pense plutôt que ça détourne. Quand on se concentre sur l'image, quand on se concentre sur la para, on oublie la parole. Je ne suis pas sûr que ça aide. L'autre idolâtrie moderne, je l'ai mis entre guillemets ici, évidemment entre guillemets, parce qu'on n'a pas inventé grand-chose. Puis pour voir que ce n'est pas si moderne que ça, je vous envoie dans Matthieu 6, 24. Où il en parle de cette idolâtrie que moi je viens d'appeler moderne bêtement. Où il est dit, nul... C'est Jésus qui parle. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon à la fois. Mammon, c'est Dieu de la richesse, c'est Dieu du pouvoir. On ne peut pas être ami du pouvoir et de la richesse. Quand je dis ici de la richesse, là, je ne veux pas dire que vous êtes pauvre et soyez pauvre, puis c'est bon d'être pauvre, puis il ne faut pas bien vivre dans la vie. Non, ce n'est pas ça. Le bien-être, on le recherche, on le veut, et le Seigneur nous le promet pour nous dans notre vie. Vive bien, de façon prospère et honnêtement. Là, ici, on parle de d'autres choses. On parle de l'opulence, de l'exploitation, du mépris des autres, de l'utilisation et de la soumission des autres pour des fins d'enrichissement. Et ça, ce Dieu-là, il y en a beaucoup aujourd'hui qui lui vouent un culte. On caresse ce rêve-là de devenir riche un jour. On joue avec le hasard pour pouvoir tout posséder. La loterie, les jeux de hasard. Et comment ces jeux-là peuvent avoir des effets pervers? On a besoin d'argent, donc on en gaspille. Et ça, c'est une idolâtrie moderne. Je me souviens d'un oncle qui, lui, critiquait donc les assistés sociaux parce qu'il ne travaillait pas, puis qu'il voulait avoir de l'argent, rien faire. Puis il achetait, je pense, pour 100 piastres de loterie à chaque semaine. Il y avait l'argent pour. Mais si ce n'est pas de l'argent, rien faire, ça c'est quoi? Mais là, on est en train d'adorer un Dieu d'opulence. Où là, on n'a plus rien à faire pour transformer la société. Où on s'écrase, puis on attend que tout se fasse, que le temps passe. Et ça, ça fait plaisir à l'ennemi. Le troisième mal, le ritualisme. Là, je vous envoie à Galates. Au chapitre 6. Des versets 12 à 15. Avant, je précisais, les rituels en soi ne sont pas nécessairement mauvais. C'est quand ça devient ritualiste, le problème. Parce que ça nous détourne tout simplement du fond des choses. Mais dans la vie séculière, on a aussi des rituels. Moi, à ma fête, je mange du homard. C'est un rituel. Mais finalement, quand je regarde vers le passé, c'est arrivé pas tout à fait une fois sur deux que j'ai vraiment fait ça. Parce qu'à un moment donné, j'étais en Colombie. Le homard valait 42 $ américains. On va laisser faire cette année. Et puis là, tout d'un coup, c'est devenu autre chose. C'est un poisson local que j'aime beaucoup d'ailleurs. Que je mangeais ce jour-là, quand ça a donné. Il y a des années que ça a été dans un parc à manger des sandwichs avec mon neveu. Cette année, ça n'a pas été le jour de ma fête parce que ma mère était chez moi la fin de semaine. On a mangé du homard avant. Puis le jour de ma fête, on a mangé d'autres choses. Mais il y a comme un rituel quand même que j'accepte de briser. Pour pouvoir accommoder avec les choses du temps. Imaginez si je devenais radicalement militant pour qu'on ait du homard à chaque année, puis là, il n'en arrive pas à Montréal, puis c'est pas grave, on s'en va le chercher aux îles de la Madeleine, et on dépense tout ce qu'il faut parce que ça prend ça ce jour-là. Vous allez dire, il est viré sur le crin, il est fou, là. Ça n'a plus de sens, son affaire. De fait, ça n'a plus de sens. Parce que l'idée de ça, c'est de me réjouir ce jour-là, avec un plat que j'aime. Mais si ça ne produit pas de réjouissance, bien là, ça n'accomplit pas sa fonction. On va lire le texte, puis je vais continuer après. Ici, ça parle de ça, en fait. Galates 6, 12 à 15. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire, uniquement afin de n'être pas persécutés par la croix de Christ, pour la croix de Christ. Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Et je vous avoue, il y a des fois, je ne sais pas si on doit être tolérant dans ce ritualisme-là quand j'accompagne ma mère à l'Église catholique puis que je vois tout ce ritualisme-là. Je ne sais pas quelle tolérance dois-je avoir là-dedans. Qu'est-ce que je dois dénoncer? Comment je dois le faire? C'est certain que si je me lève en pleine assemblée puis je condamne tout le monde, ce n'est pas très bon. À qui? Comment? Jusqu'à quel point je dois m'y plier? On se lève, on s'agenouille, on s'assoit, on va communier. Quoi? Où sont les limites? Et je vous avoue, je n'ai pas de réponse à ça, mais juste une réflexion en prière que je partage. Mais on retrouve ça beaucoup, par exemple, dans les pratiques catholiques, et il y a des bonnes choses là aussi, hein? Je ne veux pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais dans les pratiques catholiques, les pratiques orthodoxes, même parfois réformées. Et c'est toujours le prétexte. On va prier un tel saint parce que ça nous aide à nous connecter à Dieu. On va prier pour, à travers telle affaire avec un rosaire, avec un chapelet, parce que ça nous aide à. On va mémoriser les choses parce que ça nous aide à. On le prend toujours comme une béquille, alors que moi je me dis qu'il faut apprendre à marcher seul dans la foi et se communiquer directement avec Dieu. Et on a tant idolâtrisé les choses qu'on en est même arrivé à dire parfois dans ces contextes-là, à dire « je vais prier le Fils pour qu'il parle au Père de ma requête ». Non, le Fils c'est Dieu lui-même, ce n'est pas un intermédiaire dans ce sens-là. Il est médiateur de notre salut parce qu'il est venu sur la terre communiquer Dieu. Mais ce n'est pas un entremetteur, ce n'est pas un entre-deux entre Dieu et l'humain, c'est Dieu qui s'auto-communique pleinement dans toute sa plénitude humaine à l'être humain. Parce que Dieu, dans sa plénitude, est humain, profondément humain. Nous, quand on ne suit pas Dieu, ce n'est pas parce qu'on est humain, c'est justement parce qu'on est inhumain dans notre façon de faire. L'humanité, le prototype de l'humanité, le premier des êtres créés, les premiers des êtres de tout est un être humain parce que Jésus lui-même, créateur, est humain dans sa nature. Ce qu'il y a autour, les images, les objets, les bébelles, comme je dis, ça nous détourne de la foi. Pour avoir été proche des rituels catholiques, on passe tellement de temps à voir qu'est-ce qu'il faut dire à tel moment précis, à savoir quelles paroles il faut réciter, que parfois on oublie même, pas parfois, presque toujours, on oublie que ça vient de la Bible, quel geste qu'il faut poser à ce moment-là. Il y avait eu un cas d'un prêtre qui avait une infirmité. Il avait un doigt et un pouce, des pinces comme mains. Et puis ça fait toute une affaire, parce que quand on élève l'hostie, il faut absolument, ce que dit le droit canon sur l'Eucharistie, il faut que ce soit le pouce et l'index. Et il n'a pas d'index, donc ça ne marchera pas. Ça, c'est du niaisage. On s'en fout de ça. Ce qu'on veut, c'est partager la parole et la vivre. Sortir d'ici et aller œuvrer ce que Dieu nous demande d'œuvrer. Regardons ce que notre société a fait d'un rituel qui se pratique comme sacrement dans l'Église catholique, mais qu'on a conservé aussi dans la sécularité comme rituel. Étrange d'ailleurs, le mariage. Il y en a de moins en moins, mais quand même, ce qu'on en a conservé dans nos sociétés est quelque chose d'à peu près seulement ritualiste. Mais il y a des choses très importantes dans le mariage, dira-t-on. La fête, on chante, on danse, ça prend un gâteau, ça prend des invités, ça prend le rituel, la marche, les accompagnateurs, je ne sais même plus comment on appelle ça, les photos, les vidéos, montrons-nous! Et divorçons après. Non, là, on a oublié comme l'essentiel. Oublions ça. Oublions ces affaires-là et sachons que quand on se marie, on est en train de former la plus petite unité ecclésiale qui existe, le mariage. D'abord et avant tout, c'est ça. Et le mariage est essentiellement un trip à trois. C'est un mariage à trois. L'époux, l'épouse et Christ. Si Christ n'est pas là, il n'y a pas de mariage. C'est autre chose. Ça devient strictement ritualiste. On a fait une belle cérémonie, c'est le fun, et on pourra divorcer tranquillement après en faisant la joie des avocats. J'allais dire de l'ennemi, hein, mais bon, c'est la même chose finalement. Pardonnez-moi les avocats. Une mauvaise blague. Il y en a des bons aussi. Mais c'est le profond sentiment que tout ça nous détourne de la parole. Quand on se rencontre en intimité avec Dieu, on n'a pas besoin de bébel, on n'a pas besoin de chapelet, on n'a pas besoin d'image, on n'a pas besoin de chandelle. On a besoin de ça et d'un cœur qui accueille Jésus. C'est ça qu'on a besoin. Ces ritualismes-là nous plongent dans une certaine, ce que j'appelle une sclérose gestuelle. Puis, à un moment donné, dans une discussion avec un collègue théologien qui est prêtre catholique, il racontait qu'il était allé faire un baptême ou un sacrement. Puis, après, ils ont eu une rencontre avec la famille. Il avait demandé à une petite fille de 6 ans. Il dit, « Qu'est-ce que tu as retenu de toute la célébration? » Et la petite fille lui a répondu, et lui était bien fier de ça, là, il a répondu ça. Tout ce qu'il avait retenu, c'est qu'il avait, il tendait les mains tout le temps comme ça avec sa robe, avec son aube. Lui, il était bien content de son coup. Il disait, « Regarde, on a réussi à faire retenir quelque chose grâce à notre gestuelle, grâce à nos rites. » Et moi, ma réaction a été un peu inattendue pour lui, mais je me suis dit, hey, c'est triste quand même. Hein? Et là, tout le monde, au col romain, était très surpris de ma réaction. Il disait, ben oui, parce qu'avec nos gestes comme ça, on détourne les gens de la parole. Et on détourne de ce qui est vrai, de la présence de Christ lui-même. Elle ne s'est pas rappelée, la petite fille, que le nom de Jésus avait été invoqué, peut-être qu'il n'a même pas été invoqué aussi, qui sait. Mais on ne se rappelait pas de ça, on se rappelait de gestes. Et la petite fille l'a fait sûrement avec toute l'honnêteté de son cœur et toute son authenticité. Mais ce que ça me dit, moi, c'est oui, là, il y a un mal, là. Là, il y a quelque chose dans lequel on investit, et ce n'est pas ça. Et nous, dans notre vie quotidienne, dans notre pratique, on peut avoir tendance à faire ça. Moi, le premier. Et moi-même, quand je me retrouve avec des situations où il y a ce ritualisme-là, j'ai souvent tendance à dire, ben, on va le laisser passer. De toute façon, c'est pas grave. Moi, j'y crois pas à ça, ce ritualisme-là. Pas au geste posé, à la réalité qui est là, oui, j'y crois. Mais à toutes les bébelles qu'il y a autour, non. Mais la question que je me pose est-ce que je suis laxiste en faisant ça? Est-ce que je suis pas un peu... Bon, je m'en fous un peu. Est-ce que cette attitude-là n'est pas non plus critiquable? Hein? En même temps, si je me mettais à crier, je vous dénonce. Puis, c'est pas sûr que ce serait mieux. Hein? Et où se trouve le juste équilibre? Je ne sais pas. Priez pour moi, s'il vous plaît. pour trouver cet équilibre-là. Et c'est certain, je pense, moi, que quand on est dans des situations comme ça, et quand on sent qu'il y a une situation qui peut être difficile pour nous sur ce plan-là, parce qu'on trouve qu'il y a beaucoup de choses qui nous dévient, qu'est-ce qu'on dit? Bien, on s'en remet au Seigneur. Seigneur, moi, je t'appartiens et guide-moi. C'est toi qui es maître de mon attitude, c'est toi qui es maître de mon cœur. Je te suis. Et on peut faire des choses très surprenantes à ce moment-là. Mais il faut se donner de façon intégrale au Seigneur pour qu'il guide notre attitude et nos actions. Éviter les faux pas qui ne donneraient pas bon témoignage de notre foi. S'énerver contre une situation ne donne pas un bon témoignage. Je l'ai fait souvent. Ça ne donne pas un bon témoignage. Rien dire, ça ne donne pas un bon témoignage non plus. Se taire, ben lui, sa foi, ben, ce n'est pas grand-chose parce qu'il ne dit rien. Mais trouver le juste milieu, trouver la dose qu'il faut. Et ça, il n'y a pas de manuel pour ça. On lit la Bible nous inspire, mais cette Bible-là, elle est vivante. Ce n'est pas un guide moral à suivre au pied de la lettre. C'est quelque chose qui bouge en nous, que le Seigneur nous insuffle, que l'Esprit souffle en nous ces paroles-là et les met en contexte. Il nous guide à travers ça. Et on a souvent des attitudes très surprenantes qui nous surprennent nous-mêmes dans ces situations-là, parce qu'on s'en remet à l'Esprit. Et je pense que la foi est véritablement cet abandon-là, complet à Dieu, à le suivre. C'est de croire fermement qu'il y a quelque chose de mieux qui va arriver. Pour nous personnellement, pour notre société aussi, pour notre Église. Mais c'est savoir aussi que moi, je peux n'être qu'un instrument là-dedans. Ce n'est pas à moi de tout changer. Je ne suis pas un messie. Ça s'est fait. Moi, j'obéis à ce qu'on me dit. Je fais la petite partie et c'est tout. Pas par complaisance. On dit, oh, moi, je fais ma petite affaire. Puis, non. Mais il faut être conscient des limites humaines qu'on a. Pas personnelles, humaines. Et puis, d'y aller là-dedans. Parce que c'est certain que si on se dit, si on prend les limites personnelles comme étant des limites pour Dieu, là aussi, je pense qu'on se trompe. On peut dire, moi, je ne suis pas capable de faire telle affaire. C'est pas grave, ça. C'est un détail. Paul était bègue et prédicateur. Moïse ne savait pas parler au monde et il a fallu qu'il annonce la grande nouvelle de la libération. Il y a un tas de choses comme ça qu'on n'est pas habilité. On n'a pas ce qu'il faut pour ça, mais en fait, ce qu'on a pour faire les choses, c'est le don de Dieu, tout simplement. Et là, on peut faire un tas de choses avec ça. Donc, ce n'est pas en termes de limitation personnelle, mais c'est dire Dieu, parce que ce n'est pas comme ça que ça marche, ce n'est pas nous-mêmes, ce n'est pas notre personne qui proclame la parole et qui est porteur de la foi, mais sinon, c'est Dieu en nous qui nous aide à porter cette foi-là et à se laisser guider dans ce qu'on a à faire, d'espérer toujours à ce que quelque chose de mieux vient, va venir. On ne peut pas être satisfait de ce qui existe. Il doit y avoir plus de paix, plus de liberté, plus d'amour dans nos sociétés, plus de réconciliation, plus de pardon. Toujours plus de tout ça. Tout ce que Dieu nous a promis pour son royaume de Dieu et qu'on expérimente partiellement dans le monde, ça ne peut pas être ça, ce qu'on expérimente partiellement, que Dieu veut pour nous. C'est nécessairement plus. Et quand on va penser qu'on va être déjà au top dans notre vie, en termes de liberté, en termes d'amour, non, Dieu veut plus encore. Et c'est toujours plus pour ces choses-là. Pas plus d'opulence, là. Oui, plus de liberté dans ma prise de décision. Parce que plus je suis libre et plus je m'en remets à la relation que j'entretiens, à la relation interpersonnelle que j'entretiens avec Dieu, quand on est chrétien, évidemment. Plus je vis d'amour, plus je vais vivre en communion avec les autres. Et ça, on n'est jamais trop en communion avec les autres. Il y a des façons, des fois, malsaines d'être en relation avec les autres. Ça, c'est autre chose. Mais il n'y a pas de trop d'amour. Ça ne se peut pas, ça. Il n'y a pas trop de liberté. Il n'y a pas trop de paix. Il n'y a pas trop de réconciliation. On est toujours appelé à plus. Et on va toujours vivre des échecs là-dedans. On va toujours avoir des défaites. Mais on sait qu'on va vers la victoire finale. On sait qu'on va vers le salut. On sait qu'on va vers notre libération, vers l'amour inconditionnel de Dieu. Et on persiste là-dedans. Et puis, c'est certain que des fois, on dit, « Ouais, mais quand même, la loterie, ce ne serait pas pire en attendant. Ouais, mais quand même, telle autre affaire, ce ne serait pas pire en attendant. Hein? » Puis là, ben, on pourrait croire que le hasard peut jouer en notre faveur, que si on fait telle chose pour obéir à telle règle du hasard, entre guillemets, ça va nous arriver. Ça, c'est de l'idolâtrie. Et puis, si on pense que, « Ah, Seigneur, merci pour ton salut, puis je veux ton salut, puis si tu me promets de me donner ton salut, ben moi, je vais me mettre à genoux tous les soirs à 6 heures pour ça. » C'est pas de même, ça marche. Ça, ça devient du ritualisme. Accepte-le dans ton cœur et œuvre là où il t'envoie, œuvre là où il te demande d'y aller. Ça, c'est vivre sa foi. Quand on dit les choses comme ça, ça a toujours... Ben oui, c'est facile à dire, ça m'a pris une demi-heure peut-être, un petit peu plus à le dire, ça a bien été. Et à pratiquer, c'est donc difficile. Puis je répète encore tout ce que je dis là, hein. Pour moi, ce n'est pas réglé. Je suis toujours dans cette lutte-là. Je ne suis pas celui qui prétend qui. Non, c'est le combat qu'on mène comme chrétien. C'est le combat que je mène. Et certains, probablement, vont beaucoup mieux là-dedans que moi. Mais on a affronté ça. Demandons au Seigneur maintenant, je vous inviterai à prendre une attitude de prière, si vous le voulez. Mais Seigneur, on te demande ce matin de toujours être notre guide, de pardonner nos faiblesses, de pardonner nos croyances en d'autres choses, de pardonner nos défauts dans notre façon de croire et de toujours être là pour nous ramener à toi, Seigneur. Parce que tu sais, nous tous ici, on t'offre notre cœur, on t'offre notre vie. Au nom de Jésus. Amen.